Et vous écoutez France Culture. Ensemble vont les sauveurs du savoureux, hymne védique. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. C'est bien de saveur et de savoir qu'il sera question ce soir dans Mauvais Genre, qui expérimentera en compagnie de Cécile Gilbert, dont l'anthologie Écrit stupéfiant paraît en bouquin à la fond, Les mille et une saveurs des drogues et la science ou la défiance périlleuse, qui découle de leur consommation, des incantations védiques à l'univers junkie, des ébriétés romantiques au vertige fin de siècle, les grandes orgues de la drogue, c'est maintenant dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, émission stupéfiante ce soir, en compagnie de Cécile Gilbert, que je salue. Bonsoir Cécile Gilbert.
Bonsoir François Eugénie.
Alors la précédente fois que vous êtes venu nous voir, c'était pour un bouquin à la fond, c'était effectivement les écrits de Zacher Masoch.
Oui.
Vous auriez pu venir pour Bret Easton Ellis, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, vous êtes là ce soir donc pour ces écrits stupéfiants. Drogue et littérature d'Homère à Will Self, une phénoménale donc anthologie qui vous a pris près de 8 années de travail et qui regroupe, eh bien, ma foi, 300 textes et 220 auteurs qui vont, comme l'indique le titre, de la haute antiquité, comme si la drogue remonte à la haute antiquité, comme disait Vialat, jusqu'aux témoignages les plus contemporains. D'ailleurs, quand on regarde votre bibliographie, il n'y a pas véritablement, c'est un zigzag heureux. On est chez Saint-Simon un jour, chez Sade un autre jour, on passe par Stern, on revient par Guy Debord, par Warhol, détour par les Républicains.
Des esprits libres et des... Voilà, voilà, il faut varier les plaisirs.
Exactement, sans aucune logique programmatique, ni aucun esprit de... doctrinal, rien du tout.
Non, pas d'esprit doctrinal, mais je pense qu'on pourrait trouver un chemin qui est celui peut-être de la liberté.
Voilà. Bah, écoutez, cette liberté, ce soir, on va l'expérimenter en suivant ces écrits stupéfiants, donc, une anthologie sur drogue et littérature parue chez Bouquin Lafond Anthologie, dont vous êtes l'auteur. Mais avant cela, on va ouvrir un autre livre, tout aussi épais, tout aussi dense et tout aussi surprenant, notre encyclopédie. Des mauvais gens. Bonsoir Céline Duchesne.
Bonsoir François.
Alors en ce jour voué au culte des stupéfiants, qu'en nous avez-vous amené? Qui nous avez-vous
moi
amené?
Moi je vous ai amené un bel ours, un ours amoureux.
Un ours amoureux, mon Dieu.
Vous allez voir.
Il y a cette version qui est très ancienne d'un ours qui se réveille de sa léthargie, sort dans les bois pour chercher de quoi se nourrir, tombe sur une jeune fille. Cette jeune fille lui semble avoir une odeur tellement merveilleuse, une texture tellement séduisante qu'il en tombe amoureux. Mais la chose qui est très intéressante, c'est que l'histoire nous dit que la jeune fille aussi tombe amoureuse de cet ours. Ils partent vivre une longue vie de couple dans la forêt. Et l'histoire se termine en disant que l'ours lui fait un enfant en lui léchant les plantes des pieds. Alors, c'est clair que ça peut nous interroger, d'une part parce que selon l'âge que l'on a, on ne voit pas du tout cet acte de la même façon. Un des enfants qui suivait une de mes premières visites m'a dit oh, « mais ça doit drôlement bien chatouiller un ours !» alors que ses parents me regardaient en disant « qu'est-ce qu'elle raconte la dame à notre enfant ?»
On a tendance à associer les contes à l'enfance à une vision moralisatrice du monde, alors que leur raison d'être est tout autre. La faute, au XIXe siècle entre autres, qui les a transformés en outils d'éducation et de bienséance destinés à la société bourgeoise. Et pourtant, les contes ne sont ni bon genre ni mauvais genre. Ils peuvent avoir des morales ambivalentes, présenter des personnages ambigus et complexes. Et c'est une des raisons qui a poussé l'ethnologue Federica Tamarozzi à organiser une exposition au musée d'ethnographie de Genève afin de faire redécouvrir des contes ou des versions moins connues que celles auxquelles nous sommes aujourd'hui habitués, comme celle, par exemple, de l'ours amoureux.
C'est très intéressant pour un ethnologue comme moi, cette histoire, parce qu'elle raconte quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié dans les contes traditionnels, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas forcément amoureux de la catégorie d'amoureux qui nous serait destinée et que l'amour se passe par une alchimie incontestable. D'autre part, parce que c'est un conte qui raconte beaucoup de choses sur les sociétés paysannes d'autrefois, et notamment sur l'attention avec laquelle ils regardaient le monde naturel. Les animaux de la léthargie étaient extrêmement bien observés, on les connaissait bien, les ours, les marmottes, leur comportement permettait de toute une série de prédictions météorologiques qui étaient fondamentales pour la conduite de la vie familiale et agricole. Et on pensait, c'est là le côté le plus, peut-être le plus fantasque, que l'ours se nourrissait en léchant la paume de ses pattes. Et c'est très intéressant parce que l'ours est souvent considéré comme le double sauvage de l'homme, comme notre équivalent. Et donc il y a un passage assez intéressant. Si l'ours peut se nourrir en têtant les liquides qui sortent de sa paume de patte, pourquoi il ne pourrait pas féconder une autre être humain en passant ses fluides à lui à travers la plante du pied? Alors on pourrait se dire, mais pourquoi il lui lèche les pieds et pas la paume des mains? Dans nos cultures, le pied est une partie ambiguë sur laquelle on n'arrive pas trop à se prononcer, mais qui porte les stigmates de la jouissance sexuelle. D'ailleurs, en français, on a plein d'expressions qui disent trouver chaussure à son pied, par exemple, pour trouver un compagnon ou une compagne, prendre son pied. Et donc, si on croise cette topographie culturel du corps humain avec ses connaissances zoologiques, ses observations, ben c'est clair que l'ours ne pouvait que lécher la plante des pieds de cette jeune dame pour la mettre enceinte, qu'il lui aurait léché les mains, ça n'aurait pas prêté à conséquence.
L'exposition La Fabrique des Contes propose de faire revivre 8 contes européens, dont celui de l'ours amoureux, à travers une scénographie immersive. Des objets provenant de la collection du musée, des textes, des sons et des musiques vous donneront l'impression de déambuler à l'intérieur des histoires que l'ethnologue Federica Tamarotti a choisies. Donc La Fabrique des Contes se tient en ce moment au musée d'ethnographie de Genève et c'est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2020, mon cher François. Attention à vos paumes de main maintenant et vos paumes de pied.
Non, mais pas de problème. J'ai pris bonne note des différents rituels qui sont proposés. Cécile Guilbert, une réaction sur cet ours amoureux?
Je donnerais cher pour savoir quel est l'alcaloïde présent dans ce liquide de pied.
Je crois qu'il va falloir faire un tour à Genève pour avoir la réponse à la question.
Il y a forcément des vertus hilarantes ou hallucinogènes.
Il faut se méfier des contes pour enfants, regardez Lewis Carroll.
Absolument. Très bien. En tout cas, merci Céline pour cette entrée. Federica Tamarotti de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Et maintenant, place aux écrits stupéfiants, anthologie de Cécile Guilbert. Voilà, Thom Yorke, un choix de Laurent Polleret en ouverture de cette playlist stupéfiante de ce soir dans Mauvais Genre. Mauvais Genre donc qui reçoit donc Cécile Guilbert pour cet épais volume de 1500 pages consacré au rapport entre drogue et littérature. Alors, c'est un livre dont il faut surtout lire l'introduction. On a tendance un peu à dire que les introductions sont des exercices académiques qui présentent de manière un peu sèche et rapide le sujet. Et là, pas du tout, puisque Cécile Guilbert, on trouve, je veux pas dire les les raisons de ce travail et de cet approfondissement considérable que vous avez donné à votre sujet, mais en tout cas la part que vous prenez dans la connaissance de ce sujet, parce que tant il est vrai qu'un historien du fait militaire, un historien de la Seconde Guerre mondiale ou un historien de la mystique, sauf quand il s'agit d'un Louis Massignon, sont un peu, comme disait quelqu'un, exilés de leur sujet. On n'a pas fait la guerre, on peut la raconter, on n'a pas connu des expériences spirituelles à ce point abouti, on peut néanmoins être un historien du religieux. Alors que vous, avec cette question des drogues, vous avez véritablement une connaissance intime, personnelle, durable de la drogue. Et c'est ça qu'on découvre en lisant cette introduction. Dès 13 ans, vous confondez le coffre à jouets et l'armoire à pharmacie, c'est-à-dire que votre grand-mère vous trouve en train de respirer de l'éther. Très rapidement, à 14, il est question de LSD, et puis rapidement, eh bien, les choses vont leur cours, hachiche, marijuana, cocaïne. Donc il y a quand même chez vous, pendant des années, l'expérience de la drogue. Alors cette expérience, comment a-t-elle joué dans la conduite de ce livre et surtout dans la décision de le faire?
Écoutez, c'est vrai que j'avais une curiosité assez précoce pour les drogues, mais en fait, il faut que je dise que déjà, cet intérêt pour les drogues était né avec la littérature. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai découvert la littérature.
Alors justement, qu'est-ce qui est premier? C'est la littérature qui pousse à la drogue ou est-ce que c'est la drogue qui amène à la littérature?
Je suis tombée amoureuse de la littérature en lisant toute une série de livres extraordinaires qui allaient de Edgar Poe à... Baudelaire,
effectivement, oui,
en passant par un certain nombre de poètes. Et puis, je m'aperçois aussi que ces grandes figures littéraires et ces génies aussi ont un rapport peut-être avec les stupéfiants, puisque je découvre aussi les paradis artificiels de Baudelaire, certains livres de Burroughs, etc. C'est-à-dire qu'en fait, mon intérêt pour la littérature s'éveille de façon concomitante avec aussi une littérature de la drogue que je découvre. Et je découvre que cette littérature de la drogue, c'est pas le troisième rayon, c'est le premier rayon, quoi. Mmh. Voilà. Donc tout ça naît ensemble et effectivement, avec une part d'insouciance, de curiosité, de volonté de transgresser, comme beaucoup de jeunes gens.
Enfin, à 13 ans, vous lisiez pas Edgar Poe et William Burroughs, quand même.
Je lisais Baudelaire, quand même, parce que c'est Baudelaire qui m'a donné envie d'écrire. Et Edgar Poe, vous savez, c'est comme Swift. On croit que c'est des contes pour enfants et puis. On peut les lire jeunes, en fait, et puis on s'aperçoit plus tard que... Bon, bref. Donc, il y a effectivement cette volonté aussi, de ce désir de transgression, mais je pense pas faire preuve d'une originalité énorme. Vous savez, une adolescence dans les années 70...
Oui.
Bon, il y a rien d'exceptionnel à tout ça. Hein. Et puis, on n'est pas à l'époque, si vous voulez, où il y a toutes ces substances qui prolifèrent sur le web, dont on sait pas trop ce qu'elles sont et tout. Tout ça est bon enfant et plutôt... Donc, effectivement, j'avais cette connaissance du sujet... Je me suis toujours intéressée à cette question, si vous voulez, qui est un sujet qui me semble à la fois assez évident et qui, curieusement, avait été oublié. Parce que c'est vrai que c'est évident, la drogue, la littérature, beaucoup, beaucoup d'écrivains ont écrit là-dessus, que ce soit pour raconter leurs expériences personnelles ou pour mettre en scène des expériences de drogue dans leurs livres. Et bizarrement, il n'existait que des anthologies sectorielles, une sur la cocaïne que j'ai eue, une sur le cannabis, etc. Et je me disais, mais pourquoi personne n'a jamais rassemblé tout ça? C'est vrai qu'il y a une archive énorme et que c'est une question qui... est récente dans l'histoire de la littérature, mais qui est aussi ancienne, une problématique qui est aussi ancienne que celle de l'humanité elle-même. C'est pour ça qu'on trouve des drogues dès l'origine de l'humanité, sous forme de plantes, etc. Donc j'ai voulu rassembler tout ça. Et j'avoue que c'est un livre que je voulais avoir dans ma bibliothèque, si vous voulez.
Oui, fait souvent les livres qu'on a envie d'avoir.
Voilà, c'est ça. J'avais envie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque.
Oui, car en effet, on y trouve évidemment les incontournables, depuis Thomas de Quincey jusqu'à Henri Michaux, Ernst Jünger, voilà, avec toute la grande région. Mais on trouve, on va voir ça, une catégorie considérable de personnages. Alors, plus que méconnu, voire totalement inconnu. C'est ce qui fait toute l'intérêt et la force de ce livre, c'est que vous êtes allé chercher vraiment dans les coins et les recoins de la bibliothèque stupéfiante de façon étonnante, puisque vous les citiez, été précédé par un certain nombre d'horribles travailleurs, comme disait Rimbaud, Max Milner sur l'imaginaire des drogues chez Gallimard, grand livre.
Absolument.
Milner d'ailleurs qui était au départ un spécialiste de Saint-Jean-de-la-Croix et de Bernanos, donc là il y a une des résonances intéressantes, et puis Arnaud de Liedtkerk sur l'opium, la morphine, tout cela. Il y avait quand même une espèce d'école, c'est pas une école puisqu'ils sont pas constitués encore de doctrine, mais il y avait comme une tradition de la recherche érudite sur ce sujet.
Oui, il y a ces grands pionniers qui sont importants, mais après vous tirez des fils dans les bibliographies et puis vous découvrez des choses, et puis j'ai lu aussi m'ont beaucoup aidé des livres américains. Il y a eu des travaux assez importants, Writers on Drugs, The Road of Excess, la route de l'excès d'un certain Marcus Boone, qui est un livre fondamental qui m'a permis d'aller chercher des auteurs que je connaissais pas.
À traduire,
qui est un livre tout à fait fascinant. Et puis après, j'ai fait des rencontres aussi.
Alors justement, ce qui est étonnant, c'est que là... On évoque les érudits, je dirais. Arnaud Liqueur, c'est un peu différent. Max Milner, c'est un grand universitaire, mais vous avez rencontré des bibliophiles, des collectionneurs, des gens qui participent plus qu'intellectuellement de cet univers.
Alors, je dirais que j'ai rencontré un collectionneur, un bibliophile, dont il s'est avéré que c'était un ami d'enfance d'Arnaud Liqueur, qu'il le connaissait très bien. Ils avaient été très, très amis dans leur jeunesse. Et lui, qui est aussi un auteur de deux livres importants, un livre sur le vin Mariani, toute cette affaire du vin Mariani à base de cocaïne.
Aux éditions du Cerf, dans mon souvenir.
Voilà, qui a eu une grande tradition et une grande vogue au 19e siècle, qui est l'auteur aussi d'un livre qui s'appelle Stupéfiant, ou qui a été mis en musique, si vous voulez, par Emmanuel, comment elle s'appelle, Retailleau-Barjac. Est un collectionneur à la fois de livres et de premières éditions sur tous les grands livres de la drogue, et aussi d'affiches, de périodiques et de toutes sortes de couvertures de livres étonnantes liées à la drogue. Et donc lui m'a ouvert très généreusement sa bibliothèque et m'a fait découvrir des textes que j'ignorais, et je lui dois une bonne dizaine de textes que j'aurais jamais trouvé sans lui. Et il m'a permis aussi de pas aller à la BN, passer des longues journées. Donc vous ça, c'était une rencontre décisive, et qu'il en soit remercié, j'en profite.
Très bien, ben saluons donc Edmond de Lestrange pour tout ce qu'il a apporté à ce livre. Donc effectivement, est-ce que vous avez rencontré des témoignages d'expérimentateurs littéraires aujourd'hui, d'écrivains qui aujourd'hui continuent cette tradition
Mais écoutez, dans cet aspect, si vous voulez...
Il n'y a pas de témoignages qui ont été apportés spécialement pour le livre.
Non, non, non. Tout ce que j'ai trouvé, ça a été dans des livres, des choses déjà publiées, imprimées, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le dernier témoignage contemporain d'un homme qui aurait essayé, expérimenté des drogues, notamment psychédéliques et presque toutes les drogues, c'est Tom Verdier, qui est notre contemporain, Tom Verdier, qui est un homme jeune, d'ailleurs c'est l'initiateur d'Amélie Nothomb à toutes sortes de drogues psychédéliques, et qui a créé ce grand livre mi-didactique, mi-romanesque, mi-enquête sur les psychédéliques, qui s'appelle Lucie dans le ciel, LSD, et qui est un poly-expérimentateur contemporain d'une quarantaine d'années de drogues psychédéliques.
LSD, signalons, c'est également une émission sur France Culture qui va bientôt consacrer une série à Timothy Leary, qu'on trouve bien sûr dans votre livre.
Oui, tout à fait.
Baron Mordant, un choix de Laurent Polleret pour ce mauvais genre stupéfiant. Alors effectivement, 300 textes, 220 auteurs, un choix qui est multiséculaire et transculturel, c'est-à-dire qu'on trouve absolument depuis l'antiquité archaïque jusqu'à aujourd'hui toutes les époques, toutes les cultures, toutes les aires culturelles. Donc il a bien fallu cet imposant patrimoine de textes que vous avez rassemblé durant 8 années, Cécile Guibert, il a fallu le classer. Alors on peut le classer effectivement par région, par culture, on peut le classer par époque. Vous avez utilisé une classification qui est celle d'un médecin qui a publié un classique sur les drogues, docteur Levin, donc qui est un classement par substance, c'est-à-dire que non pas par période mais par substance.
Oui, il m'a semblé que ce classement de Lewin, établi dans les années 20, était très littéraire. Il a été dépassé depuis scientifiquement, puisque bon, les drogues ont de multiples effets, on peut raffiner, ce ne s'en sont pas privés les psychiatres et tous les classificateurs ultérieurs. Mais elle est très, très littéraire, parce qu'elle est très simple. Et moi, je me suis aperçu en travaillant que les gens, à part ceux qui consommaient ou qui s'intéressaient spécifiquement au problème, ne connaissaient pas grand-chose à la drogue. Et pour simplifier, je me suis dit, Lewin, c'est parfait, parce qu'on a les calmants du système nerveux, donc tout ce qu'on appelle les euphorica, opium, morphine, héroïne. On a les fantastica qui sont une famille gigantesque où il y a toutes les plantes divinatoires, la mescaline, le peyote, les champignons, le LSD qui est un
psychédélique
de synthèse, le cannabis évidemment une grosse masse, etc. On a les inebriantia qui sont des substances enivrantes comme l'éther, les solvants, mais qui sont pas proprement de l'alcool, mais qui ont donné lieu à des textes fondamentaux et surtout, je pense au grand jeu, aux poètes du grand jeu qui ont prenait beaucoup de ces substances à des fins métaphysiques. Et puis on a aussi les excitantia qui sont très importantes au XXe siècle, qui sont donc la cocaïne, les amphétamines, leurs dérivés, comme l'ecstasy, etc. Bon, je n'ai pas pris les hypnotica qui sont les médicaments type barbiturique, nambutal, etc., dont certains auteurs étaient effrayants comme Roussel ou Proust, parce qu'il n'y a pas vraiment de littérature là-dessus. Mais cette classification, elle permet déjà plusieurs choses. Elle permet déjà de voir quantitativement quels sont le nombre de textes consacrés aux différentes drogues. Et là, on s'aperçoit très vite que les fantastica et le...
Donc le cannabis et autres.
Voilà, et les euphorica, l'opium notamment, ouais. se tire la part du lion dans l'imaginaire et les voluptés ou les souffrances, en fait, des écrivains. Donc ça permettait déjà une démonstration très, très pertinente, rien qu'en regardant la table des matières. Et puis en plus, avoir ce classement, ça permettait aussi de toujours repérer les périodes qui ont été assez fastes en termes de... d'écriture des drogues, c'est-à-dire la France fin de siècle, les années 60 et 70, la révolution psychédélique, etc. Et donc ça, c'était aussi intéressant. Et puis alors, ça permettait de mélanger toutes sortes de textes, des bons et des mauvais. Et ça, c'est toujours intéressant de voir à quel type de cliché, de mauvaise littérature peut donner lieu le poncif de la drogue. Et à contrario... qu'un bon écrivain le demeure, qu'il prenne des substances ou pas, et quoi qu'il écrive.
Donc la qualité de la littérature n'a rien à voir avec la quantité de drogue ingérée.
Voilà, tout à fait, il faut le redire. Et j'ai trouvé que ce classement était assez, était assez excitant. Et il m'a permis de faire une découverte majeure aussi, à savoir que certaines drogues donnaient lieu à certains genres littéraires, ce que j'aurais pas pu repérer si tout avait été émietté. Bah, par exemple, la morphinomanie donne lieu beaucoup à des journaux de morphinomanes qui prennent des notes pour eux. Alors, Alphonse Daudet, des anonymes. Parce qu'en fait,
Alphonse Daudet, c'est lié à une souffrance syphilitique.
Voilà. C'est-à-dire qu'on entre toujours dans la drogue par la porte, comme disait un aliéniste du début du siècle. On entre dans la drogue par la porte de la douleur, de l'extase ou du chagrin. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de toxicomanes, puisque cette catégorie est inventée avec la morphine, rentrent dans la drogue parce qu'ils souffrent physiquement, moralement.
Antonin Artaud, notamment.
Donc, par exemple, les journaux de morphinomanes, bon, ça, c'est très clair, ça donne lieu à des journaux, parce qu'il y a une sorte d'angoisse du morphinomane de voir qu'il est obligé d'augmenter la dose, qui devient dépendant. Parce qu'en fait, c'est avec la morphine la première fois qu'on s'aperçoit de cette assuétude qui peut être fatale, toxique et létale. Alors les drogues psychédéliques donnent lieu plutôt à des comptes rendus, genre médicaux, parce qu'en fait c'est des petites doses, micro-doses qui sont administrées en général dans un contexte médical. On prend pas de la mescaline, on va pas chez le dealer pour acheter de la mescaline. Hein. C'est des médecins ou des psychiatres qui vous la prescrivent. Donc ça c'est le compte rendu. Puis on s'aperçoit que le cannabis et l'opium qui sont les drogues reines, alors là donnent lieu à des pages élégiaques, poétiques, prose ou vers d'ailleurs.
Ce que vous constatez, Cécile Guilbert, c'est que par exemple la cocaïne, qui est une des drogues reines, sur le plan commercial, si j'ose dire, sur le plan de la popularité, n'a généré qu'une littérature très restreinte.
Oui, alors c'est ça le problème des excitantia, si vous voulez, c'est-à-dire des excitants du système nerveux.
Excitantia, catégorie 4, on va ouvrir l'armoire, catégorie 4, café, amphétamine, crack, ecstasy.
Voilà.
Chers auditeurs.
Et les excitantia, tiennent une place importante dans la littérature, parce qu'en général, ce sont des drogues qu'on ingère pour écrire. C'est-à-dire, on est sous l'influence de ces drogues pour écrire. Alors, évidemment, Jacques Kerouac, On the Road, le rouleau, le fameux rouleau tapé frénétiquement à la machine, bon, des choses comme ça. Et en fait, comme c'est des drogues qu'on prend plutôt pour écrire, c'est pas des drogues sur lesquelles les écrivains écrivent en se prenant comme objet d'expérience, parce que ça donne pas lieu, si vous voulez, au développement d'une sensation et de jouissance comme les autres drogues. Certains, évidemment, l'ont fait, mais si vous voulez, c'est vrai que relativement, quand on voit l'importance de la cocaïne et des excitants au XXe siècle, et qu'on voit ce qui a été écrit, finalement, c'est la partie la plus pauvre, entre guillemets, littérairement parlant, du contenu d'expérience. J'ajoute une chose importante, si vous voulez, c'est qu'il est toujours, pour moi, qui aime tant la littérature, et qui a vraiment voulu faire cette histoire parallèle de la littérature, je pense que le bon baromètre de ce qu'est un écrivain ou pas, c'est l'écriture du contenu des sensations, quelles qu'elles soient. Sensations olfactives, toutes les sensations qui mobilisent les sens. Évidemment, la prise de drogue d'une substance psychotrope voilà, permet un autre état, un autre rapport au monde. Et en fait, le baromètre de la bonne littérature, c'est de voir quels sont les écrivains qui ont un développement littéraire riche, nuancé, de ces sensations. Et donc, en fait, c'est là où on voit qu'il y en a beaucoup qui ne développent pas grand-chose littérairement parlant à propos d'une expérience, et surtout en matière d'excitants cocaïniques et autres. Mais il y a quand même des contre-exemples, toujours.
Alors effectivement, ça c'est vraiment un des aspects les plus forts de cette anthologie, Cécile Gilbert, c'est que par exemple, pour les Fantastica, on va d'Hérodote à Henri Michaud. Et on voit l'histoire d'une substance, et surtout au miroir de tous ceux qui ont pu en témoigner. Donc c'est très impressionnant de l'avoir voyagé. Il y a quelque chose de totalement transhistorique, presque.
Oui, parce qu'en fait, il faut bien voir...
Elle ne bouge pas, mais les hommes, eux, ils changent.
Voilà, la prise de stupéfiants, en fait, on pourrait dire que c'est un invariant anthropologique, à savoir que de tout temps, sur tous les continents, des hommes ont eu le besoin d'absorber des substances qui, en général, la plupart du temps, et depuis toujours, étaient végétales. Donc, il y a à la fois la partie pharmacopée, c'est-à-dire la thérapeutique, dès l'Antiquité, surtout au Moyen-Âge, etc., les hommes absorbent des plantes qui ont des propriétés thérapeutiques ou psychotropes. Certaines d'ailleurs sont, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est de voir que le cannabis, l'opium sont des thériaques qui sont utilisés pour soigner un certain nombre de pathologies physiques, hein, et après, bon, elles sont prises, si je peux dire, pour aussi voyager dans un autre monde parallèle. Après, les occultistes s'en mêlent, enfin bon, voilà, il y a toute une histoire très riche. Et évidemment, au début, c'est des plantes. Donc, en fait, on a des témoignages très anciens. Par exemple, des missionnaires, des conquistadors qui voient les Indiens absorber des cactus peyote qui donneront la mescaline, absorber des champignons, absorber de la coca, mâcher de la coca pour travailler, pour s'exciter, ça donnera la cocaïne. Et après, effectivement, à partir du moment où la chimie s'en mêle, c'est-à-dire qu'on tire les alcaloïdes des plantes pour fabriquer des substances chimiques, alors là, on bascule dans autre chose et on bascule... Dans ce qui n'est plus un art de vivre, une thérapeutique, mais qui devient vraiment toujours une thérapeutique, mais avec tous les effets toxiques et ce basculement dans la toxicomanie.
Donc il y a une sorte d'évolution, il y a la transe sacrée, il y a la thérapeutique, et puis qui peu à peu, on perd de vue les raisons premières d'utilisation de la substance, et ça devient ce qu'on appelle une consommation récréative, et puis après il y a des phénomènes de mode, il y a des phénomènes comme ça qui s'y mêlent, et puis cette idée que, effectivement, il y a peut-être la possibilité d'engendrer une création remarquable. Donc il y a toute une évolution des pratiques.
Ceci étant, on ne peut pas complètement dire qu'on passe d'un usage... Bon, c'est vrai qu'on passe d'un usage sacré au rituel en matière de certaines plantes, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique. Et on passe effectivement à des thérapeutiques physiques et mentales, etc. Mais ça perdure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des raisons de prendre des drogues pour des raisons de souffrance. Par exemple, j'en parle pas dans mon livre parce que c'est pas mon objet de faire une histoire sociale de la drogue ou médicale. Mais quand on voit la vague des opiacés aujourd'hui qui décime... des pans entiers aux États-Unis de la population, on voit bien que là, on est dans une problématique qui est à la fois physique, de souffrance psychique, etc. Ceci étant, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le retour des psychédéliques, à la fois médicalement, pour traiter des dépressions, toute une série de pathologies, de stress, et en même temps aussi pour toute cette problématique qui est beaucoup, très à la mode du développement personnel, le néo-chamanisme. Vous voyez des gens qui font du tourisme de l'iboga, là, de ce petit arbuste qu'on trouve en Afrique, qui était à l'origine utilisé pour des pratiques cérémonielles, liens avec les esprits, communication avec les ancêtres, etc.
Alors on va écouter un certain nombre de documents sonores INA, trouvés par Claire Poinsignon. Ce soir, Cécile Gilbert, le premier, c'est quelqu'un effectivement dont la drogue a été une sorte de marque de popularité et qu'elle a quand même empêché d'entrer à l'Académie française Henri de Monfred.
Ben la drogue, chaque pays a sa drogue et c'est nécessaire. Le chinois a l'opium, certains autres ont la cocaïne, enfin la coca... Nous avons le tabac, l'alcool, chaque pays a son poison. Et dès le début, ces poisons étaient employés d'une façon judicieuse. Ce n'était pas la recherche des paradis artificiels. C'est là, justement, le point noir. Et c'est là qui fait de la drogue un ennemi terrible de l'humanité. C'est que si vous recherchez dans une drogue quelconque le paradis artificiel, c'est-à-dire un bien-être que vous ne pouvez pas obtenir autrement... Il faut chaque fois, pour obtenir ce résultat, augmenter les doses. Et tout ça est pris sur les réserves vitales de l'individu. Et il en meurt. Ainsi, par exemple, pour l'opium, qui est de toutes les drogues la moins dangereuse, en ce sens qu'elle n'attaque aucun organe. D'une façon irrémédiable, comme l'alcool qui fait de la cirrhose du foie, par exemple, ou autre. Eh bien, les Chinois, certains que j'ai connus et qui me l'ont expliqué, s'en servent comme d'une espèce de médicament, dosé d'une façon très exacte, avec certaines règles, de ne jamais absorber ce poison sans avoir des aliments sur l'estomac, hein, enfin des tas de règles. Employées comme ça, les drogues sont au contraire utiles. Mais si on recherche le paradis artificiel, alors là c'est la mort, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit l'opium comme toutes les autres. Hein.
Cécile Gilbert, Henri de Montfred, alors lui, l'homme du mystère de la mer Rouge. Vous nous apprenez d'ailleurs que on lui a refusé l'entrée à l'Académie française parce que les habits verts avaient peur que la drogue circule un peu trop dans, sous la coupole grâce à Henri de Montfred.
Oui, il était un peu sulfureux. Bon, en fait, ce qui est amusant chez Henri de Montfred, c'est que, effectivement, c'était un opiomane occasionnel, mais il n'a pas écrit sur l'opium. Il a écrit surtout sur le hashish, puisqu'il a été contrebandier en mer Rouge et qu'il a détourné une cargaison de 12 tonnes de hashish à la barbe des Anglais, ce qui n'était pas un mince exploit. Et il raconte d'ailleurs un certain nombre de petites expériences qu'il a avec le hashish, qu'il nomme le charas. Bon, je suis pas tout à fait sûr que l'opium n'endommage aucun organe. Ça me semble avoir, hein, notamment l'intestin. Enfin bon, je suis pas sûr. Hein.
Alors c'est quoi Henri de Montfred par rapport, je dirais, au panel, ou l'éventail d'auteurs que vous présentez? Est-ce que c'est un touriste? Est-ce que c'est un aventureux? Est-ce que c'est quelqu'un qui utilise la drogue comme une sorte d'élément exotique pour une sorte de...
Je dirais que c'est un aventurier qui effectivement à la drogue à titre d'ingrédient, si vous voulez, des écrits autobiographiques qu'il raconte, puisqu'il a été réellement contrebandier de hashish et qu'il a surtout habité dans la Corne de l'Afrique, et qui était cette région où il y avait beaucoup de trafic de hashish sur les boutres, etc. Mais je dirais que le hashish tient dans son œuvre une place assez mince. Mmh. C'est un élément dans l'aventure générale du personnage. Et puis, c'est pour ça que mes extraits sont très courts, hein, dépendamment du coût des droits. Hein.
Parce que certains, par contre, c'est aussi un bon aspect du livre, certains extraits sont très longs, notamment des ouvrages rares dont on a de véritables fragments.
C'est pas quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus. Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est Joseph Kessel qui l'a convaincu d'écrire tout ça, et que Joseph Kessel, lui, était un héroïnomane et un cocaïnomane qui avait connu le Berlin de Weimar, etc., qui a écrit des reportages là-dessus. Donc tout ça se tient.
Mauvais genre, François Angelier.
Qui reçoit ce soir Cécile Gilbert pour ses écrits stupéfiants, drogue et littérature, en bouquin à la fois. Alors, en ouverture de la, où ouvre la parade, si j'ose dire, l'étrange parade, Cécile Gilbert, c'est l'opium. Alors là, qui était véritablement tout autant un mythe littéraire qu'autre chose, avec évidemment un descriptif qui va de Kinsey à Cocteau. Mais là, l'opium pose une question particulière, c'est la question des rapports entre la drogue, la mythologie de la drogue et le colonialisme et le commerce d'État, puisque là, on n'est pas du tout dans une consommation clandestine, on n'est pas du tout dans un produit comme ça qui est clandestin. C'est véritablement une industrie d'État à un moment, en Angleterre, en Chine.
Oui, alors il faut distinguer effectivement le laudanum, ce qu'on appelle le laudanum.
Ça, c'est le cas de...
voilà, de Kinsey, ce qu'on appelle les mangeurs d'opium. En fait, c'est des buveurs d'opium, ce sont des buveurs de laudanum, hein, on précise. Le laudanum se vend moins cher que la bière, à la limite, à l'époque, en Angleterre, au 19e siècle. Et certains qui le prennent pour un certain nombre de raisons thérapeutiques, évidemment, tombent dans une dépendance énorme. Et c'est ce qui est arrivé à De Quincey, qui est le premier auto-observateur, si vous voulez, de cet état. Ça c'est d'une part le laudanum, donc très présent en Angleterre, mais aussi un peu en France, puisque c'est ce que prend Baudelaire, par exemple. Et puis après, il y a toute la fantasmagorie de la pipe d'opium, de la fumerie d'opium. Alors, on croit toujours que l'opium, à part ceux qui le savent, évidemment, est en Chine depuis toujours, mais pas du tout, en fait. Déjà, l'opium est une implantation qui est due aux rivalités coloniales et à l'emprise des puissances coloniales, notamment britanniques et françaises, sur la Chine. Et c'est comme ça qu'ils vont infester la Chine d'opium, et après, les Chinois vont essayer de s'en débarrasser. Mais il y a effectivement le cas de l'Indochine française, enfin ce qui s'appelle pas l'Indochine, mais qui est à l'époque le
Siam.
Le Siam, etc. Et donc là, on a toute une série de fonctionnaires, de militaires qui vont débarquer dans les colonies indochinoises françaises et qui vont découvrir effectivement l'opium, son rituel, sa volupté, son esthétique, qui sont des thèmes très littéraires.
Surtout la sociabilité opiomaniaque, c'est-à-dire qu'il y a la fumerie, les gens qui se connaissent, qui sont là tous ensemble. À la différence de beaucoup de drogues dont la consommation est sauvage, solitaire et très redoutable pour ça, là, l'opium, on est entre soi.
Voilà, on est entre soi et c'est comme si on allait au café, sauf que, comme disait Cocteau, confondre la drogue, l'opium, c'est comme confondre le pernaud et le pomard. Donc c'est une sorte comme ça de luxe, il y a cette esthétique. Et donc là, un certain nombre de fonctionnaires qui n'étaient pas du tout écrivains vont se mettre à devenir écrivain, en fait, suite à leur expérience d'opium, pour chanter l'opium. Alors, il y a les grands esthètes de l'opium, mais il y a surtout certains écrivains très peu connus qui ont été d'excellents écrivains de l'opium.
Par exemple,
je pense à Jules Boissière. Et je pense, Paul Bonnetin, c'est pas le cas parce que c'est un...
Bonnetin est connu pour un roman célèbre sur la masturbation et un pinsum naturaliste et un peu moralisateur sur l'opium.
Mais Jules Boissière est un excellent, est mort assez jeune d'ailleurs, hein, avant la quarantaine, est un excellent esthète et amateur d'opium qui a écrit des textes assez beaux. Et puis surtout Claude Farrère, que lui, ça n'a pas empêché de rentrer à l'Académie
française.
Alors
ça, c'est génial, parce que Claude Farrère, c'est un énorme best-seller. C'est un monsieur qui est mort quand même assez tard, et qu'au contraire, effectivement, est entré malgré l'opium sous la coupole.
Oui, alors lui, il est très connu. Alors bon, évidemment, il a connu l'Indochine, il a écrit énormément sur l'opium. Pour lui, l'opium, c'est un des grands chantres de l'opium avec Maurice Magre, qui est le grand, mais qui est un peu plus tardif, hein, mais... Et Claude Farrère, effectivement, il a une carrière académique considérable. Il publie son premier texte, il est préfacé par Loti, et puis il est l'initiateur de Colette à l'opium, et puis il hante toutes les années 20 et 30 à Paris, et même plus tard les cercles où on fume de l'opium. Et donc Claude Farrère, lui, va être un écrivain fou de l'opium, et il va écrire aussi beaucoup, par exemple, sur ces ports français où on trouve de l'opium, Toulon, Marseille, etc. Donc, les colonies françaises, effectivement, ont leur lot d'écrivains de ce type. Il faut citer Daguerche, Moreau, mais même Ségalène. Alors lui qui partira en Chine plus tard, mais qui aussi est un opiomane à l'époque. Et là, il y a très peu de textes de Ségalène, puisqu'il s'est prononcé sur les guerres de l'opium et toutes ces questions politiques liées à l'opium. Mais bon, on a retrouvé dans le fond Ségalène de la BN certains textes personnels où il parle effectivement de cette, que je cite, de cette maîtresse impérieuse qu'est l'opium. Et
Donc alors, c'est ce qui est extraordinaire. L'opium devient véritablement un produit consommé par toutes les dignes représentants de l'État français, que ce soit les ambassadeurs, enfin je veux dire les diplomates, les savants, et puis aussi les militaires, au point même que, eh bien, un des chants les plus célèbres des troupes de marine s'appelle « Opium ».
Dans le port de Saïgo est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, qu'on ne connaît pas le nom. Mais le soir entre temps, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. Sous toi, au paradis artificiel, si on voit le tout visage de nos yeux, de mon aimé, par toi, je suis son image dans ton nuage.
Voilà, au Breton du Bambou, à l'époque où les troupes de marine chantaient Opium. Là, c'était une version entonnée par Jacques Dutronc. Alors, moins sociable, si j'ose dire, et plus redoutable, Cécile Guilbert. On a consacré jadis une émission à ce sujet avec le livre d'Arnaud de Lidkerk, La morphine et l'héroïne. Alors là, ça génère un autre type de littérature.
Ah oui, alors
moins festive.
La morphine, c'est d'emblée une production chimique, en fait. C'est parce qu'on prend, voilà, l'alcaloïde de l'opium et qu'on en tire la morphine. Dès qu'on est dans les plantes, si vous voulez, qu'il y a toujours ce substrat végétal, je dirais qu'on est moins dans du dur et dans du féroce. L'opium, c'est quand même le pavot, bon, tout plein sorte d'opérations qui permettent d'aboutir à l'opium. Avec la morphine, on est tout de suite dans quelque chose de médical et donc il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'on a la littérature des morphinomanes qui écrivent des journaux de déchéance et des récits en général poignants.
C'est là où on est au cœur de votre problématique.
Ça, c'est la toxicomanie.
Autant l'opium génère des fictions, des romans,
des poèmes,
beaucoup de poèmes, des poèmes qui sont sensuels, lyriques. Il y a vraiment ce côté éperdu. Autant morphine héroïne, là, on n'est pas du tout dans la poésie éperdue et dans une espèce de suavité là.
Non, parce que dans la morphine, on est tout de suite dans la souffrance et en général, presque tous les morphinomanes ils sont rentrés dans la drogue par la porte de la douleur pour reprendre cette métaphore, à savoir des maux physiques, psychiques qui leur font prendre de la morphine, dont ils sont dépendants, dont ils n'arrivent plus à se sortir. Et les héroïnomènes, c'est un peu pareil, mais sauf que l'héroïne, c'est une drogue un peu plus récente. Et donc, tout de suite, on est projeté dans... Et ça, l'héroïne, il y a une sorte de monotonie du récit de l'héroïne.
Grisaille.
Ou du roman de l'héroïnomane, du junkie. C'est-à-dire qu'on soit aux États-Unis dans les années 50, ou qu'on soit dans l'entre-deux-guerres, ou qu'on soit dans les années 70 avec moi, Christianeff, ou qu'on soit avec Mara Velias. Voilà, Trocky ou Mara Velias plus récemment.
Oui, La Fausse Soyeuse, j'ai eu le plaisir de le recevoir, voilà, c'est une série noire.
On est toujours dans le récit d'addiction, oui. Et il y a deux exceptions glorieuses et magnifiques, qui sont Yves Salg et donc un récit de vie qui s'appelle L'Héroïne. Il raconte son initiation à l'opium en 44, et puis après comment il est tombé dans l'héroïne. Mais si vous voulez, le récit est tellement beau sur le plan du style, et sur aussi la profondeur de la volupté dans laquelle il s'enfonçait malgré tout dans l'héroïne, tout ça mêlé à des expériences sensuelles, amoureuses. C'est un très beau livre, donc un des plus beaux récits d'addiction à la drogue que j'ai lu. Et puis aussi,
disponible ?
Oui, toujours. Mmh. Et puis sinon, le livre de Delcourt, qui en fait était publié sous forme anonyme chez Alia, qui était Confession d'un toxicomane solitaire, et qui est une expérience d'héroïne qui se veut glorieuse, qui se veut dans la lignée des grands classiques français, style Baudelaire et tout ça. Mais sinon, c'est toujours des récits d'addiction, de déchéance, de misère, etc. Et ça, c'est lié à ces deux drogues chimiques que sont l'héroïne et la morphine. Et puis la morphine donnant lieu, outre les journaux de morphinomanes, à toute cette vogue du roman décadent sensationnaliste où il s'agit de montrer quelle déchéance et quelle turpitude et quelle décadence finalement entraîne la prise de morphine, y compris sur les mœurs sexuelles et l'horreur et la dépravation et l'horreur de tous ces romans fin de siècle très amusants, de Catulle Mendès à Joséphin Péladan, en passant par Du but de la forêt et autres inconnus, et type totalement tombé aux oubliettes, parce que par exemple ce Marcel Malade Basilan, qui est le premier à écrire sur la morphine un roman, personne ne le connaît, je crois plus que son livre.
Heureusement, vous êtes là, Cécile Gilbert, pour redonner voix à toutes ces fantômes oubliés de la fin du siècle. Lolo, un choix de Laurent Polleret pour notre émission stupéfiante de ce soir. Alors on en arrive, Cécile Gilbert, au Fantastica, au cannabis. Alors là, l'expérience est quand même peut-être la plus partagée, même auprès de ceux qui nous écoutent, de toutes les drogues que vous avez analyser. Alors là, effectivement, on part des racines les plus antiques. Les premiers textes remontent à Hérodote. Alors véritablement, on est dans la découverte par les historiens et les militaires de l'Antiquité de tout ce qui est les cannabis et dérivés. Puis là, on fait un grand travelling historique pour se retrouver, bien sûr, dans les années 70, avec quand même évidemment, le club des hachichins. Il y a des textes hilarants, extraordinaires de Théophile Gautier. Et puis, il y a deux, ce que vous appelez les maîtres expérimentateurs, Henri Michaud et Walter Benjamin. Alors, Henri Michaud, c'est étonnant parce que c'est un peu un Stradivarius sur lequel on joue, la drogue se joue comme une mélodie. Et les textes de Michaud, qui en prenaient très peu sous surveillance médicale, sont véritablement des sismographies de ce que peut être l'expérience du cannabis. Cécile Guilbert.
Oui, Michaud, c'est intéressant parce qu'en fait, il a écrit des textes très importants sur la mescaline, mais ça ne veut pas dire que c'était sa drogue préférée. Au contraire, il a des mots très durs sur la mescaline.
Est-ce qu'il avait une drogue préférée? Au contraire, il voyait avec une certaine distance.
Ce qui est très étonnant, c'est que la première fois que Michaud a pris de la drogue, c'était très jeune et c'était pas une drogue proprement dite, c'était de l'éther, en fait, quand il a voyagé en Amérique du Sud. Et puis après, pendant 20 ans, plus rien sur la drogue.
Équador.
Voilà, Équador. Et là, l'expérience de l'éther, pour lui, est fantastique, quoi. C'est une révélation. Puis plus rien sur la drogue pendant 20 ans, puis après il commence toutes ses grandes expérimentations de toutes les drogues. Et il écrit tous ses grands textes et ses grands livres sur la drogue. Donc ses textes sur la mescaline sont très connus, mais c'est pas ce qu'il préfère. Les champignons, il aime pas ça du tout non plus, il trouve que ça abrutit, c'est pas très intéressant. Mais le hashish, il adore d'une certaine façon.
Mais il est rentré par la drogue, par la porte de la tristesse et de la souffrance, puisqu'on dit qu'il s'est intéressé à ses expériences après la mort tragique et atroce de sa femme. Donc là aussi, il y a une sorte de... C'est pas de la pure intellectualité, Michaud, loin de là.
Tout à fait, la porte de la douleur, mais après, il se rend compte que grâce à la drogue, il va pouvoir s'auto-observer et peut-être créer une nouvelle voie poétique et d'expérimentation, de sensations et d'illimitation de la conscience, en fait. Parce que c'est ça qui est le plus intéressant dans la drogue. Après tout, on parle depuis le début de tout ça, mais c'est finalement, d'une certaine façon, ce qui est le plus intéressant, c'est les observations sur l'illimitation de la conscience, l'élargissement de la conscience, la modification de la conscience avec une sorte de raison à l'œuvre qui permettrait, à vrai dire, d'ouvrir des portes qui ne seraient pas ouvertes sans elles, les fameuses portes de la perception d'Aldous Huxley, ou la comparaison de Shulgin que j'adore, qui dit si vous avez des livres à portée de main dans une bibliothèque, vous allez les prendre et les consulter, mais pour aller monter tout en haut de la bibliothèque, il va falloir faire un effort, et en même temps, vous allez aussi découvrir des choses, mais simplement, vous faire l'effort de le faire. Bah, avec les drogues psychédéliques, c'est pareil. Si vous ne les essayez pas, vous n'aurez jamais accès à tout ça. Bon. Donc effectivement, le cannabis, c'est une drogue reine, il y a beaucoup de choses. Et puis c'est lié aussi, c'est ça qui est intéressant historiquement, c'est lié à tout un imaginaire qui est le Maghreb, qui est l'orientalisme français. Et à chaque fois, il y a toujours des raisons, si vous voulez, historiques, objectives, pour lesquelles certains écrivains s'intéressent à certaines choses. Est-ce que la Beat génération se serait intéressée aux champignons, aux peyotes, etc., s'ils n'avaient pas eu le jardin mexicain, comme disait Junger, à portée de main? Donc il y a aussi des facteurs, la colonisation du Maghreb, un facteur important qui joue sur l'imaginaire des romantiques qui découvrent aussi le café et l'importance du café dans la civilisation arabe.
Les excitants modernes, comme disait Balzac. Alors, parmi ceux que vous appelez les maîtres expérimentateurs, il y en a un que vous aimez tout particulièrement, à la fois, surtout pour la qualité littéraire de son témoignage. C'est quelqu'un que les amateurs de science-fiction et de fantasy connaissent, c'est Charles Duhigg.
J'ai commencé ces expériences en 1956, dans des circonstances assez particulières, puisque j'étais alors sur le bord du désespoir. Toutes les activités auxquelles j'avais consacré ma vie semblaient faire naufrage. Je ne savais plus à quel saint me vouer. Et c'est alors que l'un de mes amis, un sculpteur américain venant en France, m'a proposé de faire une expérience du peyote. Pour moi, c'était une forme de suicide. J'étais arrivé véritablement au bout de mes diverses aventures intellectuelles, et j'ai pris cette plante qui, je dois le dire en passant, est extrêmement désagréable à prendre, un peu comme on se tue. Alors, à mon insu, j'étais dans les meilleures conditions possibles, parce que, désirant abolir en quelque sorte mon passé, j'étais vide, j'étais ouvert à tout, j'étais disponible. Cela se passait à Antibes. Il a fallu passer une heure dans une attente extrêmement anxieuse, désagréable, en me maudissant, l'expérience, en maudissant la vie. Je suis sorti du petit jardin dans lequel je me promenais avec une branche pourrissante à la main. J'ai contourné une voiture qui sentait excessivement mauvais. J'ai observé que mes sensations étaient toutes infiniment plus vives. Justement, je sentais fortement l'odeur de cette voiture. Je sentais le sol sous mes pieds, je sentais mes vêtements, je sentais ma peau. Les couleurs étaient très fortes, très aiguës, très désagréables. Donc, je suis sorti du jardin, je me suis dirigé vers le chemin de l'Ermitage, qui était un petit chemin dans le voisinage de la villa. J'ai regardé, je pense, un insecte qui passait, et soudain, levant la tête, j'ai vu une haie de laurier rose, et je me suis rendu compte que j'étais au paradis.
Cécile Guilbert, Charles Duhuit qui était au paradis, mais là c'est le peyote là, qui est en question.
Oui, ça m'intéresse beaucoup de l'entendre, parce que Charles Duhuit, en fait, je ne le connaissais pas jusqu'à ce que je travaille sur cette question, et j'ai découvert deux textes fantastiques de lui, Le pays de l'éclairement et La conscience démonique, grâce à un ami, Malek Abou, que je salue. Et c'est un grand auteur, hein. C'est lui qui a aussi mis au point le terme de lucidogène, pour parler d'un certain nombre de psychédéliques, qui a été repris après par Jean-Philippe Domecq notamment, qui s'intéressait
aussi. Lucidogène, donc la drogue créatrice de lumière, ouais. Et de lucidité.
Et lui, il a une recherche, il fait partie de ces expérimentateurs ou de ces consommateurs de psychotropes qui ont une recherche spirituelle, entre guillemets, une recherche mystique, parce qu'il s'est intéressé aussi beaucoup au soufisme, au zen. Alors à chaque fois, bon, on a des écrivains qui sont ou dans la des théosophes, des illuminés, des gens qui s'intéressent au côté surnaturel des drogues, qui en général n'est pas un débouché forcément très probant, mais aussi beaucoup de gens, évidemment, et Michaud aussi d'ailleurs, qui ont cette préoccupation de spirituel et de...
Et Artaud également, bien sûr.
Et Artaud, bien sûr. Et qui sont plus mystiques, disons. Et Duhuit appartient à cette catégorie.
Oui, parce que ça, c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que la drogue comme accès au divin, c'est-à-dire une substance qui est un accélérateur intérieur, qui porte l'homme là où il a peur, où il ne sait pas où aller. Donc, c'est véritablement une sorte... Les portes de la perception ouvrent sur l'enfer, mais là, c'est ce qu'il vient de dire, sur le paradis, donc là aussi.
Et c'est pour ça qu'a été mis au point cette nouvelle catégorie, et c'est pour ça que, bon, pour revenir à Lewin, j'ai pris ces classements par psychotropes, qui est très simple, mais si vous voulez, dans le genre raffinement de qualificatif pour définir les psychotropes, a été mis au point le terme entéogène.
Entéogène.
Voilà, entéogène, théos, parce que...
Comme enthousiasme.
Voilà, que certaines drogues, effectivement, rapprochent du divin. C'est Gordon Wasson, je crois, qui a mis au point ça, pour parler de ces drogues-là.
Donc là, on renoue avec l'inspiration peut-être la plus archaïque de la consommation des stupéfiants, c'est-à-dire la transe sacrée.
Et les fantastica seulement. Il n'y a que les fantastica, voilà. Si vous voulez. Tous les fantastica ne sont pas entéogènes, mais tous les entéogènes sont des fantastica.
Voilà. Notez bien cette fine, subtile et importante notation. On va écouter une dernière chanson. Cécile Guilbert, qui montre bien à quel point, effectivement, certaines drogues ont dépassé le cercle de la consommation, je dirais, lointaine, ou de l'esthétisme mondain, ou d'une espèce d'élitisme littéraire, pour, être portées par les vedettes de la variété.
Oh, laissez-moi briser cette poudre enchanteresse, dont le pouvoir est de me griser d'une amoureuse ivresse. Une seule prise et ma chair est prise. Je vis des instants si doux, si doux. Tout mon corps frissonne de désir fou. Je m'abandonne. Cocaïne, c'est toi qui me prends. Cocaïne, je t'ai dans le sang.
Voilà, cocaïne jetée dans le sang. Celui qui s'en tire le mieux dans votre anthologie, Cécile Guilbert, c'est Gottfried Benn, poète dadaïste, et connu surtout pour un grand poème sur la morgue et la syphilis.
Oui, alors lui, c'est un des rares qui a consacré à la cocaïne des poèmes. Mais bon, on peut aussi considérer comme des poèmes les paroles de chansons d'un certain nombre de chanteuses des années 20.
Anita Jones, qu'on a entendu.
Miss Coco et compagnie. Non, mais il y a des choses formidables sur la cocaïne. Il y a Pitti Grilli, là, cet auteur italien qui vivait à Paris, dont on a réédité les dernières cocaïnes chez Séguier. Très bien. Non, il y a des choses très amusantes avec la cocaïne. Mais si vous voulez, la cocaïne, c'est un peu comme la morphine. C'est-à-dire que ça donne lieu aussi à toute cette diarrhée, comme disait Roger Gilbert Lecomte, moralisatrice et de documentaire sur la fameuse déchéance de tous ces gens qui prennent de la cocaïne ou qui prennent de la morphine. Donc il y a beaucoup à trier, mais il y a aussi beaucoup cette veine russe intéressante, là, AGF, tout ce Bulgakov aussi... Il y a beaucoup de choses qui viennent du côté de la Russie et qui viennent... Bon, puis après, on a la cocaïne des années 80, ça c'est encore un autre trip.
Dernier témoignage, alors là, signé France Culture, puisque c'est un extrait d'Avoix Nues qu'avait fait Martin Kéhéné à l'époque, qu'on termine cette émission avec Philippe Solers.
Avez-vous déjà vu de l'Afghan ? Très noir, très puissant. Les hachichins, vous savez ce que c'est, les hachichins. Les croisés étaient très étonnés qu'on leur envoie des types qui n'avaient pas peur de mourir. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou l'absence de soleil. Ils n'avaient pas peur de mourir. Hein, bon, donc ils arrivaient, ils tuaient tout le monde et puis on les tuait. Mais alors ça recommençait. Les croisés, quand même, avaient un peu peur de mourir. Ils n'étaient pas sûrs de leur paradis. Autrement dit, ils ont compris que c'était le vieux de la montagne, un type, voilà. Que c'était le mot assassin. Voici venir le temps des assassins. C'est dans les illuminations de Rimbaud. C'était les hachichins. C'était des gens bourrés de cannabis qu'on envoyait comme ça au massacre. Alors, tout récemment, j'ai trouvé intéressant que quelque chose que j'ai beaucoup employé à une certaine époque, que je ne prends plus, d'ailleurs ça a disparu même avec des complaisances médicales, c'était le captagon, c'est le décollage très rapide, vous gagnez 2 heures ou 3 heures, vous avez... donc ça m'intéressait. La descente en revanche est très pénible. Donc vous avez vu qu'il y a des tonnes des camions qui sont passés comme ça de la Turquie vers les djihadistes, des tonnes de captagons. Autrement dit, vous avez là une série de pilules, ça dépend combien vous en prenez, tant pis pour vous. Autrement dit, vous êtes maître du monde. Vous pouvez tuer n'importe qui, n'importe quand, achever des blessés, notamment au Bataclan, par exemple. Hein, vous tuez tout ce que vous pouvez tuer. Vous savez que vous allez mourir, mais vous vous en foutez éperdument. Vous êtes déjà dans une sorte de paradis que vous avez tout à fait envie de rejoindre dans la période de descente du produit. Parce que là, ça devient infernal. Donc plutôt le paradis en se faisant exploser qu'aller en enfer, voyez-vous, comme c'est sain.
Philippe Solers, au micro de Martin Kenen, Cécile Gilbert, comme c'est simple.
Oui, comme c'est simple. Bon, bah Solers, consommateur de captagon, de afghan, mais qui a inventé la dose. La dose. Alors moi, je trouve que c'est intéressant, je finis là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a les deux paradigmes de la drogue. Il y a le produit qui rend addict, qui peut vous provoquer une overdose, qui est l'enfer. Et puis il y a la dose qui est le paradis. C'est les deux paradigmes de la drogue. Et avec la dose, je me demande si Philippe Solers ne renoue pas avec le soma des védiques.
Ah ben voilà, ce qui bouclerait la boucle puisque vous ouvrez votre livre avec le Soma des Védiques. Merci infiniment Cécile Gilbert d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je recommande chaudement, c'est peu dire, écrit stupéfiant que vous signez une anthologie de 1500 pages, 300 textes et 220 auteurs de d'Homère à Wilsef. C'est aux éditions Bouquin Lafont. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paul Ray, Guillaume Leduc, Claire Poissignon, Claire Martin Dugard, Céline Duchesne et François Joly, vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain. Nous évoquerons Alan Moore et surtout Mircea Cărtărescu pour son formidable roman Solénoïde. Et d'ici là, bonne nuit à tous.